Salut, c'est Erwan. Je me permets ce petit message avant votre podcast pour vous parler du festival Silence on Joue, qui aura lieu le 25 mai prochain à la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. De 10h à 22h, on vous prépare une journée qu'on espère passionnante, avec des discussions, des débats au cœur même de la Cité des Sciences, et une soirée mémorable dans un grand amphithéâtre. La billetterie est ouverte, le lien est dans la description des derniers épisodes, et vous trouverez aussi un lien vers la programmation. C'est 20€ pour la journée et la soirée, et si vous voulez juste passer nous voir en journée, il suffit d'une entrée classique pour la cité, c'est 13€ tarif plein avec éventuellement des réductions. C'est la première fois qu'on organise un truc pareil et on espère vraiment que vous répondrez présente et présent. En tout cas, nous, on a très envie de vous croiser, de rencontrer celles et ceux qui nous écoutent chaque semaine. Rendez-vous donc le 25 mai et je vous laisse avec votre épisode de Silence on Joue, ou de la bande-annonce, ou de Gâchette Gauche, ou de Dans la boucle. Enfin bref, bonne écoute.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Silence on Joue, Erwan Cario, bonjour. Un programme très 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 chargé aujourd'hui dans Silence on Joue. Ouais, pas de jeu majeur, hein, on est un peu un entre-deux.
Pardon.
Pardon. Au programme donc Twisted Metal, Ridge Racer, Shogun Total War, Fall of Samurai, Resident Evil, Opération Dragoon, Raccoon City, Tiger Woods 13 et quand même Farming Simulator 2012.
Amenez-lui un verre d'eau parce qu'il va tomber là.
Et oui, et Monsieur Fall, la minute culture. Le comme des comme, enfin vous connaissez le reste du programme et je commence en accueillant trois de mes chroniqueurs favoris, Clément Apap de Sens Critique, bonjour Clément.
Bonjour.
Patrick Elio de Rogamer.fr et Hitphone.fr, bonjour.
Bonjour Erwan.
Et Joël Métro de 20 minutes, bonjour Joël.
Bonjour.
Ouais, on était en tête à tête la semaine dernière et là, ouh, c'est la fête, c'est la fête, on est plein, c'est cool. On commence avec toi Clément, avec, c'est un des sujets récurrents mais importants.
Oui, avec Kickstarter. Alors maintenant, vous devez savoir de quoi il retourne. C'est ce site qui permet de crowdfunder, c'est-à-dire de mettre chacun un petit peu d'argent dans la cagnotte pour lancer le développement de jeux,
de projets, de projets
de manière générale. Mais nous, ce qui nous intéresse, ouais, c'est plus les jeux. Et donc, depuis Double Fine de Tim Schafer, effectivement, il y a beaucoup de jeux qui se sont mis dans cette lignée en espérant profiter. On avait parlé ici de Westland 2, le prédécesseur spirituel de Fallout. Alors, celui-là, il a dépassé largement ses objectifs, parce qu'il a plus de 2 millions de dollars de fonds levés, alors qu'il en cherchait 900 000. Pourquoi j'en reparle aujourd'hui? C'est parce qu'avec l'argent qu'ils ont levé en plus, ils se sont adjoints les services de Obsidian, qui sont en fait les développeurs des derniers Fallout, et les développeurs originaux de Planescape Torment. Donc là, on a une espèce de dream team du RPG qui est vraiment assez hallucinante. Donc là, ça y est, moi, j'ai mis mes 15 dollars dedans. Donc ça, c'est la première chose. Et donc pas mal de licences qu'on apprécie et qui n'ont pas vu de suite ont récemment trouvé une suite. On parle de Shadowrun notamment, qui avait une suite un peu
un FPS.
Le FPS était un peu à chier d'ailleurs, dans la vidéo il demande pardon
pour ce il y avait un super jeu sur Super NES qui était monstrueux, voilà. Le RPG Super NES, voilà. C'était fabuleux, en isométrique,
voilà. Et c'est ce remake là
je valide au plus haut point,
voilà. Donc il a déjà dépassé donc tu as parlé aussi la semaine dernière normalement de
normalement tu as écouté Clément, voyons
Larry Shutler
de Larry, voilà. Et enfin
tout à fait, oui.
Et enfin moi il y a une y a une licence.
D'ailleurs, Erwan, tu m'as dit qu'il y aurait Halloween qui parlerait, et il le fait dans une vidéo d'ailleurs. Hein, on le voit parler du projet, etc. Exact. Donc ça fait plaisir de le revoir.
Et là, moi, il y a aussi une licence que moi j'attendais énormément. Pour ceux qui l'ont connu, ça fera couler des larmes. C'était la licence Battlezone, Battlezone 1 et 2 d'Activision à la fin des années 90. Ce qui était un jeu qui était trop en avance pour son époque, qui mêlait FPS et RTS, c'est-à-dire qu'il y avait un joueur qui jouait en vue de dessus un jeu de stratégie en temps réel, qui prenait des ressources, qui créait par exemple des tanks, mais sauf que les tanks étaient pilotés par des vrais joueurs. Et donc on pouvait donner les ordres comme ça, et donc il y avait deux commandants qui, bref, je suis hyper content.
Il y avait 450 mecs en ligne qui jouaient sur le même terrain.
C'était 16 contre 16, ou 8 contre 8 à l'époque. Donc celui-là, il va être fondé aussi. Et donc ça continue.
Un néologisme, ça va être fondé.
Voilà. Donc il a trouvé ses sous. Et c'est assez intéressant parce qu'on voit qu'il y a de plus en plus de licences dont on espérait une suite et qui n'ont jamais eu de suite, qui trouvent une nouvelle vie avec voilà. Et moi j'espère qu'il y aura une suite à Elite, ce grand jeu. Et on espère comme
David Braben,
comme
si
David
nous
Braben,
écoute.
Voilà, et encore dans le milieu, s'il peut encore lever des fonds pour ça. Mais c'est vraiment assez intéressant de voir que il y a une vraie demande et on le voit, c'est pas forcément qu'il y a beaucoup de joueurs. Parfois il y a juste 8000 joueurs, mais comme ils mettent plus de $50 ou un peu plus, parfois voilà, ça suffit.
Ça fait des sommes.
Donc vraiment une niche.
Mais moi j'ai hâte à la sortie des premiers projets qui ont trouvé des fonds par ce système-là, parce qu'il va y avoir des effets intéressants, des effets de marketing viral absolument incroyables.
Communautaires, surtout des vraies communautés engagées derrière le produit qui vont soutenir. Et aussi impitoyable, j'imagine. C'est-à-dire que si le produit n'est pas à la hauteur des attentes et des promesses,
Ce qui est intéressant, c'est que pour le remake de Battlezone qui s'appelle Bionite Origins, c'est pas pour le développement du projet en fait qu'ils cherchent, c'est pour finir le projet. Parce qu'il y a une alpha qui a déjà été faite, et donc on voit que ça sert pas co-développement initial, donc Kickstarter.
C'est le principe de Kickstarter. Il y a par exemple beaucoup de documentaires qui demandent des fonds pour la post-production ce genre de choses, où les images sont déjà tournées, mais il faut des moyens pour la colorimétrie et ce genre de choses.
Et ils ont une idée du nombre d'argent qu'ils ont besoin? Enfin, ils ont estimé?
Ah oui, non, mais à chaque fois, en fait, ils disent eux, c'est pas grand-chose, c'est $15,000.
D'accord.
Mais Westland, ils avaient demandé 900 000, là ils sont à 2,4 millions, et pour info, le premier Fallout c'était 3 millions. Donc on arrive à vraiment un budget de vrais gros jeux, quoi.
Patrick, mauvaise nouvelle.
Il y en a parfois, malheureusement, on peut pas annoncer que des bonnes nouvelles. Moi, une news qui m'a attristé cette semaine, c'est l'annonce que vous aurez certainement vu passer. C'est celle de la disparition de Jacques Tramiel à l'âge de 83 ans, je crois. Jacques Tramiel, c'est une figure historique du jeu vidéo. Enfin, moi, depuis que je m'intéresse aux jeux vidéo, que je lis la presse, j'ai toujours vu des photos de ce petit bonhomme qu'on voyait lors des conférences au CES ou etc. dans tous les salons. Alors pourquoi? Parce que c'est une de ces figures mythiques des pionniers du jeu vidéo. C'est quand même le monsieur qui avait créé qui était au lancement du Commodore 64, qui est le créateur du Commodore 64, de l'Atari ST. Il a une histoire un petit peu particulière. C'est ça qu'on parle de pionnier, c'est qu'il a c'est quelqu'un qui était qui avait survécu à Auschwitz, donc qui est vraiment qui avait une histoire personnelle assez lourde tout de même, qui a commencé par créer, qui a fondé Commodore en commençant par créer des machines à calculer, des machines à écrire, qui est venu à l'informatique avec le succès qu'on connaît, le Commodore 64, qui se fait virer de sa propre boîte parce que il se lance dans une guerre des prix, parce que la concurrence commence à s'échauffer dans les années 80, qui finit par reprendre finalement le label jeu d'Atari et qui va lancer l'Atari ST, pareil, qui est aussi une machine mythique pour pas mal de monde, même si l'Amiga était meilleure entre nous. Mais bon, il a aussi lancé ça pour combattre l'Amiga, et c'était une guerre qui était
la guerre des
très dynamisante pour
Commodore,
le marché à l'époque.
Commodore et Atari étaient fascinantes à l'époque. Ouais, avec les équipes qui conçoivent une machine, qui partent finir celle de l'autre.
Exactement, qui créent leur boîte, qui partent de Commodore, qui créent leur boîte, qui sont finalement repris entre deux. Enfin, il y a toute une histoire assez hallucinante. Et puis après, donc c'est la reprise de toute la partie jeux vidéo d'Atari, le lancement de la Lynx, de la Jaguar, des bécanes qui n'ont pas forcément connu un succès monstrueux et qui sont des figures marquantes. Ce sont des bécanes qu'on aime bien et qui ont marqué leur époque. Et voilà, je trouve que c'est un personnage quand même du jeu vidéo. On en parlera sûrement moins que de la disparition de Steve Jobs. Mais pour moi, c'est un de ces pionniers. C'est un peu si on comparait l'histoire du jeu vidéo avec le western. C'est vrai que à l'époque, les grands pionniers donnaient des fois leur nom à une ville. Et lui, non, il a donné des marques des ordinateurs qui restent dans les salons des personnes de bonne de bon goût hein, qui ont toujours un Commodore 64 sous le téléviseur. Et puis une news un petit peu plus rigolote pour rebondir, c'est celle des 20 ans de la Super NES hein, qui fête ces jours-ci les 20 ans de la sortie sur le territoire américain, donc un petit peu en retard par rapport au Japon et aux US, mais évidemment avril 92 hein, c'est une date marquante pour le jeu vidéo parce que c'est quand même l'arrivée d'une console mythique qui était vraiment impressionnante pour l'époque avec ses Street Fighter 2, ses
Zelda,
son Mario 4, voilà, une décane qui a marqué et ça fait 20 ans et on en parlait tout à l'heure, c'est vrai qu'on n'a pas l'impression que ça fait 20 ans. On a... finalement, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle que ça finalement, c'est pareil, ça fait un peu bourdon mais bon voilà, hein, allez, restons positifs. Voilà, c'était les 20 ans de la Super NES.
Joël, tu as été au Louvre.
Ouais, j'étais au Louvre puisque le patrimoine s'intéresse aux jeux vidéo. Puisqu'en fait le Louvre propose introduit depuis hier une petite console qu'on connaît, une petite console portable qu'on connaît, introduit la 3DS à l'intérieur de ses murs. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Mais vous allez me dire, mais que fait la 3DS? Fait la 3DS à côté du radeau de la Méduse, de la Joconde? Eh bien la 3DS en fait elle sert d'audio guide. Alors c'est ainsi qu'elle a été présentée lors d'une conférence de presse où il y avait des pontes de Nintendo et les responsables du musée du Louvre. Mais alors parler d'audio guide, donc un audio guide tout le monde connaît. On se balade dans un musée avec les écouteurs, on a les commentaires d'œuvres. Donc parler d'audio guide pour la 3DS est un petit peu réducteur, la 3DS au Louvre, parce qu'en fait on va pouvoir également se géolocaliser à l'intérieur du Louvre. Alors je sais pas si vous êtes déjà baladé, j'imagine. Oui. On se perd un petit peu souvent dans le dédale des couloirs, au milieu des statues, des œuvres, des peintures.
Un jour, je me suis perdu au milieu des peintures religieuses que je déteste. C'était horrible. Pardon.
Il y a un syndrome d'ailleurs. C'est un syndrome, ça, je crois. Ouais, les peintures.
Le syndrome. Oui. Mais en tout cas, la console, elle va bien. On va pouvoir se géolocaliser à l'intérieur. Elle va proposer des parcours aussi. Des parcours pour voir les chefs-d'œuvre. Le truc qui est intéressant aussi, c'est qu'ils ont entièrement photographié l'intérieur du Louvre, donc toujours pour se repérer. Par exemple, il suffira d'appuyer sur l'écran tactile en bas de la console pour se repérer, pour voir en bas sur le plan où on est, et puis ensuite voir s'afficher en photo à l'écran supérieur, voilà la représentation de ces.
On peut venir avec
ses propres cartouches.
Non, avec sa propre 3DS ou pas, ou ce sont des cannes qui sont préparées.
Pas encore. Alors. On leur a demandé, évidemment, pour l'instant, ce sont des consoles dont les ports ont été désactivés. On pourra pas repartir avec, malheureusement.
Ça se loue
5€. Ce qui est raisonnable. Ouais.
Qui est inférieur au prix de l'audio guide qui est à 6€.
Absolument.
Et la 3D, ça donne quoi?
La 3D, oui, pour voir les. Alors, ça permet de voir pas tant les.
Joconde en 3D.
pas tant les peintures, mais surtout les statues, le Louvre à l'intérieur, le Louvre. Et en revanche, ce qu'ils ont fait, ce qui est plutôt sympa, ce que je trouve bien, c'est qu'ils ont pris une cinquantaine d'œuvres, donc aussi bien des tableaux et statues, sur lesquels on va pouvoir zoomer à l'intérieur. Par exemple, vous allez devant la Joconde, il y a toujours plein de gens qui attendent devant. En attendant, vous pouvez cliquer sur la console et zoomer, regarder la Joconde, zoomer, regarder les détails.
En même temps, il y a le Google Earth Project,
tu peux déjà faire.
C'est un peu plus compliqué. La 3G, elle passe difficilement à l'intérieur. Ah. Voilà. Bon.
Il n'y a pas d'interaction entre les visiteurs. Enfin, je sais pas, moi.
Non, pas encore. Mais
Street Pass.
Un petit shoot entre les. Non, je sais pas. Non, il y a pas.
Est-ce qu'il y a une utilisation de la réalité augmentée?
Non, pas encore. Mais bon, j'imagine qu'ils vont sans doute se pencher sur ces choses-là, parce que l'idée en fait des responsables du Louvre, c'est un peu de rendre le côté plus fun, ludique, donc je pense que ça pourrait arriver.
Eh bien, d'accord, c'est au Louvre. Donc, le com des com de la semaine dernière, alors, on avait parlé de Yesterday, notamment de Pendulo, et j'avais évoqué, honte à moi, une durée de vie de 6 heures.
Il y a eu polémique, c'est ça.
Je viens d'entendre ceci, et je cite, c'est aussi parce qu'il y a peut-être un peu de grosso modo la durée de vie pour arriver au bout de Yesterday, et de 6-7 heures, voilà. Et donc, c'est Nathanade qui dit, non, je m'insurge, il faut au maximum 4 heures, pas plus. Pourtant, je joue avec deux mains gauches et bientôt deux... deux dents moins.
Ah, pardon.
Voilà. Parce que bon, il est tombé de son canapé, ça a été horrible. Enfin, il décrit la scène, j'ai presque honte d'avoir dit
ça. Ah oui, il sirote.
Il sirote un cognac. Enfin bon, bref. Il ne me félicite pas. Voilà. Et Marmotte19 qui renchérit alors avec une formule mathématique. Hein. Alors, soit X, le nombre d'heures nécessaires pour finir un jeu. Y, le nombre d'heures nécessaires à Erwan pour finir un jeu. On établira l'équation suivante. Y égale 150 divisé par 100 fois X. Et on vérifiera pour chaque jeu. Journée, X égale à 2. Y est à 3 pour moi. Et yesterday, X est égal à 4. Donc Y égale à 6. Théorie validée. Voilà, bon bah oui, je suis peut-être un petit peu lent.
Tu testes, Erwan,
ouais,
c'est normal.
Ouais,
tu
non,
fais plein
je
de,
sais, mais
de,
je
de
sais
tests,
pas.
De, tu, ouais, voilà, tu farfouilles.
Mais en plus, j'ai pas l'impression d'être lent, quoi. Enfin, je sais pas. Je
et tu joues à ton rythme, y a pas de honte.
Ouais, merci. tu me rassures, je vais finir par faire un complexe. Bon, maintenant, vous savez. Alors, il semblerait qu'on puisse finir yesterday en 4 heures. Bon, moi, ça n'a pas été mon cas. Et monsieur U, qui dit qu'il a commencé à jouer à Silent Hill Downpour. Et je dois vous avouer quelque chose, je n'ai jamais joué qu'au tout premier Silent Hill avant. Donc
oh là là, oui, ça date pas.
J'ai raté
ça date pas
un ou deux jeux grandioses et a priori une série de jeux médiocres. J'ai d'excellents souvenirs du premier Silent Hill, son ambiance particulière, sa musique complètement barge, ses personnages bizarres et ses fins tout aussi bizarres. Je retrouve pas mal de tout ça en fait et nettement plus abouti donc dans Silent Hill Downpour. La fin, je ne peux pas encore dire, mais l'ambiance est là. On retrouve ce côté Amérique éternelle mais décrépit, malsaine et moisie. Un peu comme si on demandait à Norman Rockwell d'illustrer les pires nouvelles de Lovecraft. Par contre, il y a un truc que je n'aime pas vraiment, ce sont les transitions du monde normal au monde maléfique. En fait, j'ai d'excellents souvenirs du fait que dans le premier, eh bien, ces transitions n'existaient tout simplement pas. Et le monde changeait de manière inexpliquée en passant une porte ou en sortant dans un ascenseur. Dans l'hôpital, on rentre dans l'ascenseur, 3 étages, on rentre à peu près 4 étages. Je ne comprends pas cette parenthèse d'ailleurs, je le dis comme ça, mais.
Non, mais c'est vrai que les transitions étaient bien plus fines, c'est vrai. Sur le premier.
Et en fait, là, il trouve que les transitions héritées du film de Christophe Gans inutilement démonstrative. Voilà.
Mais non, mais je suis complètement d'accord. Et c'est vrai qu'il nous manque le premier. Il est dispo que sur PS1 et peut-être sur PC aussi. Mais il n'a pas été remasterisé contrairement au deuxième ou au troisième. C'est dommage parce que le premier mériterait d'être. Quand on le relance aujourd'hui sur une PlayStation, il est un peu vieilli, donc c'est un peu difficile.
Peut-être un jour.
Même beaucoup. Mais espérons peut-être que on le reverra.
Metal, on se souvient qu'il avait été présenté en grande pompe, je crois, à un E3 il y a quelques temps déjà. Ça avait été une des annonces de Sony, je crois, hein, le grand retour des clowns sur leur moto et leur voiture blindée. Donc Twisted Metal sur PS3, tu y as joué. Joël, tu es bien le seul. Hein.
Ouais. comme effectivement c'est un jeu qui donne envie de, comme on a entendu sur la bande, le morceau, c'est un jeu qui donne un peu envie de faire du headbanging. Donc ce jeu, alors en fait moi j'ai joué en parallèle, en fait j'ai vraiment joué en parallèle ces derniers temps à deux jeux de bagnole, vraiment dans des genres complètement différents. À la fois Twisted Metal, qui est un jeu de voiture assez délirant, qui est entre le jeu de voiture et le jeu de baston. Donc on incarne il y a un scénario que je trouve pas très intéressant, passons vite, mais allons vite plutôt au gameplay. Donc on a ces véhicules qui sont assez armés jusqu'aux jantes, qui sont assez délirants. Un petit peu là genre Mad Max, et puis des espèces de gros pneus. Enfin on a vraiment toute une kyrielle de véhicules assez rigolo qu'on va faire s'affronter contre d'autres véhicules. Voilà, tout simplement, il s'agit de les dégommer et à la fin il ne restera plus qu'un. Je trouve ça pas mal, j'aime bien l'ambiance, effectivement un peu crade, un peu vraiment on peut dire de mauvais goût. Je trouve que c'est un peu c'est un peu sale quoi, c'est un peu dégueulasse.
Tu peux les customiser tes véhicules, tu peux les customiser,
tu peux customiser
véhicules,
avec des
l'argent, etc.
Avec des armes.
C'est une vieille franchise, je crois. Dès le lancement de la première PlayStation, le tout premier
des années 90.
C'était quasiment un jeu de lancement.
Ouais, c'est PlayStation, c'est... PlayStation 2, et là,
il y
PlayStation
10 ans, quoi. Ouais.
Voilà, et puis avec un côté, genre, il y a un côté assez sombre, assez un peu morbide, avec ses clowns ricanants, avec ses poupées,
t'as
au
eu
visage.
Peur. T'as eu
non,
peur
non, pas vraiment peur, non. Quoi. Je trouve ça, vraiment, c'est bad taste, quoi. C'est mauvais goût, avec ses poupées un petit peu, comment dire, sans visage.
C'est plutôt multijoueur, non? C'est pas plutôt.
C'est vraiment, effectivement, c'est un jeu qui est plus intéressant à jouer en multijoueur. On peut y jouer jusqu'à 16 en ligne. Et c'est pas, et le principe, c'est que c'est pas du tout du circuit, mais c'est vraiment des arènes, quoi. C'est des arènes assez, assez, alors, multicolores, je pourrais pas dire ça, parce que le jeu est plutôt, enfin, les graphismes sont plutôt sombres, mais plein de, je sais pas, de choses qui explosent, et ouais. Tout. Alors, je trouve ça sympa, un jeu honnête, sympathique, mais le seul souci, je trouve, c'est la maniabilité. C'est-à-dire que
ce qui est un souci, quand même.
Oui, ouais. Non, mais c'est vrai qu'il faut vraiment un certain temps d'entraînement avant de pouvoir bien gérer son véhicule,
tirer ce qu'on veut.
C'est un petit peu compliqué à la manette PS3.
Parce que mais alors, dans les images, il y a juste un truc, quand on joue en multi, il peut y avoir un pilote et un tireur sur les véhicules.
Moi, j'ai joué que, j'étais mon propre pilote et tireur.
Ah oui, d'accord.
Mais en revanche, moi j'ai préféré l'autre jeu de bagnole qui est pas du tout un jeu de combat, le jeu qui s'appelle Ridge Racer Unbounded.
Une série assez longue. Hein,
même chose qui date des années 80.
Oui, Ridge Racer. Pour ceux qui se rappellent.
Voilà, comment là. Oublier. Pardon.
Non, et là du circuit pur et simple, dans des environnements plutôt urbains, assez réalistes, mais qu'on va pouvoir détruire en fait. À la même manière que, je sais pas si vous rappelez le jeu qui s'appelait, c'était
Split Second.
Un petit peu comme ça, c'est-à-dire des passages qu'on va pouvoir
ou Flatout aussi, puisque ce sont les développeurs de Flatout, hein, qui était une bonne série.
Absolument comme Flatout.
Mais c'est le premier Ridge Racer développé hors du Japon, je crois, si je ne m'abuse.
L'intérêt
c'est évidemment de franchir la ligne d'arrivée, de terminer en premier, mais aussi donc de dégommer ses concurrents en leur rentrant dans l'arrière-train, de prendre des de dégommer sur la piste des camions citernes remplis d'explosifs, de créer des raccourcis en se crachant dans les immeubles.
Tout ce qu'on se faisait pas dans un Ridge Racer classique.
Voilà, là c'est vraiment du pur arcade et je trouve ça assez plaisant. Il y a en plus un petit éditeur de circuit qui est plutôt simple à prendre en main, c'est-à-dire que d'habitude les éditeurs de circuits sont un peu compliqués, un peu lourds à manier, ça prend du temps, et là c'est plutôt sympa, et donc on peut le publier, le poster en ligne. Donc un jeu de bagnole plutôt, enfin correct.
Et
quoi,
c'est sur 360.
C'est sur PS3, Xbox 360, peut-être PC.
Alors en fait c'est toujours ça, en fait, quand on parle d'un jeu de voiture correct, on a l'impression qu'il y a tellement de jeux de voiture plus que correct qu'on se demande l'intérêt quelque part de.
C'est vraiment de l'arcade, de l'arcade pur et dur, quoi. Oui, il faut vraiment falloir apprendre à gérer.
T'as senti le fameux drift, c'est la marque de fabrique, Ridge Racer, quand même, c'est l'ADN.
Effectivement, quoi, il faut vraiment, on prend du boost, le boost qui va nous permettre de détruire les éléments du décor, de détruire ses concurrents. C'est en réussissant ces fameux drifts dans les virages. Bon, ça demande un petit peu de temps d'apprentissage, mais c'est pas bien compliqué, quoi. Non, et on arrive quand même à ressentir une sensation de puissance, d'adrénaline, de vitesse, quoi. C'est correct, quoi. C'est de la bonne arcade.
Ridge Racer, et on passe à toute autre chose. On écoute un petit peu. This place is a powder keg. Guess I found myself a new civil war. Shogun Total War 2 Fall of Samurai, c'est un DLC ou un nouveau jeu ?
C'est un add-on standalone.
C'est-à-dire
qu'en fait, on peut croire que c'est un add-on, donc du premier, sauf qu'on n'a pas besoin du premier pour y jouer.
D'accord.
Voilà. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, c'est, du coup, c'est un
C'est une variante
non, ouais. Moins chère, ouais. Il coûte moins de 30 euros, du coup. Et on peut y jouer sans avoir
et le jeu original. On en avait dit beaucoup de bien de ce Shogun Total War 2.
Je vais essayer de faire bref et de pas sortir encore le dictionnaire superlatif. Mais en gros, alors la série des Total War, pour ceux qui connaissent pas, ça mixe, en fait, deux gameplay. C'est-à-dire que ça prend déjà une période historique intéressante, la plupart du temps. Donc, on a eu Napoléon, on a eu Empire, on a eu Rome, on a eu le Japon du Shogunat, qui était le premier, donc qui a été remixé l'an dernier pour faire Shogun 2. Et là, on prend cette période historique, on va un peu plus loin, c'est qu'on va à la fin des samouraïs, au début de l'industrialisation du Japon avec l'arrivée des étrangers. Mmh. Donc, on prend cette période-là, une période charnière super intéressante. Et donc, on a un gameplay qui est au tour par tour, qui rappelle un peu Risk, où en fait, on doit développer ses provinces, négocier la diplomatie avec les autres, rentrer en guerre, etc. Et on a l'aspect bataille, et qui est là, on est plongé au cœur de la bataille avec des unités en 3D, avec des centaines, voire des milliers d'unités, contre des centaines, voire des milliers d'unités en face, et des batailles dantesques, et qui, voilà, c'est super beau, c'est super bien réalisé. Et voilà, donc
c'est très fin, c'est-à-dire que on a quand même un vrai contrôle stratégique.
On contrôle pas unité par unité, mais bataillon par bataillon. Ouais. On a des bataillons par exemple de Bushido, donc ceux qui sont à l'arme blanche, des bataillons avec qui ont en fait des lances qui sont meilleures contre les cavaliers. On avait des tirs à l'arc, mais là ce qui est intéressant, c'est comme on a une période charnière, on a aussi le début des arquebusiers, on a les canons, on approche voilà d'une transition du Japon. Et ce qui est très intéressant justement, c'est-à-dire que dans cette période de transition, le but n'est plus de conquérir l'intégralité du Japon. Là, en fait, on a l'empereur, en fait, qui on va dire le pouvoir spirituel de l'époque, qui lui refuse l'invasion des étrangers, face au shogunat, qui on va dire le pouvoir réel, qui eux donc ça, tout ça c'est historique, hein, qui eux acceptent l'arrivée des étrangers pour avoir plus d'argent et pour avoir toutes les améliorations technologiques. Donc là, au début du jeu, en fait, on choisit une des deux factions, en fait, plus le shogunat, plus l'empereur, donc plus traditionnel ou plus évolutif, et on va devoir, à la fin d'un temps donné, contrôler ou, enfin, être plus ou moins empereur ou plus ou moins shogun, enfin plus ou moins tradition, plus ou moins avancé, avec toujours la possibilité de changer. Voilà, parce qu'on peut faire la pute, hein, évidemment, et de changer au milieu.
Pardon, on peut faire le filou.
Et au milieu,
le patcher, hein.
Et au milieu du jeu, passer de l'un à l'autre. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que du coup,
Clément,
les combats, moi, je trouve ça beaucoup plus fin. C'est-à-dire que, on peut être tenté, par exemple, moi, j'ai causé la tradition. Dans une première partie, on peut être tenté d'aller vite et de profiter des armes à feu, etc. Mais on rendra notre peuple n'est pas pour forcément
n'est pas pour les avancées.
Donc c'est super intéressant et je trouve que c'est vachement plus dur d'avoir une grosse armée dès le départ parce qu'elle coûte beaucoup plus cher. J'ai trouvé les systèmes de prix vachement mieux mis en compte. Du coup, on va vachement plus jouer sur la diplomatie. On va prendre plus de temps pour faire des vassaliser des régions, etc. Et en plus de tout ça, il y a beaucoup de choses qui ont été rajoutées, notamment les batailles en mer qui étaient à l'époque un peu chiantes parce que c'était du tir à l'arc entre bateaux.
Ah
si
oui, c'est un peu oui,
donc
c'est
long, quoi. Avec voilà, là on a commencé à avoir des navires à vapeur et donc ça, c'est les batailles sont, et puis elles sont dantesques, elles sont sublimes vraiment. Et en plus il y a beaucoup plus de stratégie, notamment on peut se servir des bateaux comme appui. Quand tu te bats sur une côte, tes bateaux peuvent faire des tirs de barrage aussi. Donc c'est beau, c'est plus intéressant. On peut jouer. Il y a aussi des nouvelles unités, qui viennent de France, d'Amérique, etc., qui servent à corrompre, on va dire, d'autres armées. Donc on n'est plus forcément dans la bataille pure. Alors ça reste un jeu de guerre, hein, Total War, ça reste un jeu de bataille, mais on arrive à une complexité, une richesse plutôt qu'une complexité, et je trouve ça super intéressant.
Parce que est-ce que le jeu est pourtant accessible?
Le jeu est très accessible. D'accord. Mais le jeu est très accessible. Après, c'est sûr qu'on n'est pas, moi, première bataille, je suis parti, genre, attends, je suis bon en jeu de stratégie, allez, je vais commencer à conquérir un peu tout. Et très vite, tu vois, je me suis rendu compte que j'avais trop développé mon armée, j'avais plus d'argent pour l'entretenir, et ou alors je me suis tapé je pensais si tu veux que dans une baston que mon allié allait me suivre,
m'a pas du tout suivi, je me suis pris une raclée.
T'as oublié la diplomatie. Et...
Voilà, bon. Et je trouve ça super, super intéressant. Alors, il est beau, il est riche, il coûte pas cher. Et franchement, c'est un des meilleurs jeux de stratégie de tous les temps.
Mais c'est vrai qu'on peut le prendre en main. Hein. Moi, j'avais joué à Shogun Total War d'une manière, sans avoir d'antécédents dans la série forcément.
Ils tiennent par la main.
Après, il faut s'investir. C'est pas du casual gameplay où faut vraiment s'investir dans le jeu. C'est très agréable.
Moi, j'aime autant les jeux qui durent 3-4 heures comme les journées. Là, par exemple, une partie.
C'est 6 heures, on a dit, un peu de journée.
Non, ça va.
Mais une partie riche de Total War, où tu prends le machin, c'est une trentaine d'heures.
Ah oui,
voilà. Donc,
45 heures, Erwan.
Ça rappelle un peu les parties de Civilization, mais vraiment, c'est riche, c'est complet. Et là, notamment, on n'a pas besoin du jeu original pour y jouer. Ça coûte 30 euros. C'est disponible sur Steam. Voilà. Non, c'est vraiment.
On peut
jeu...
commencer par celui-là. Enfin, clairement. Si on est tenté, oui, on
clairement,
peut.
Clairement. Donc, on a des batailles qui changent de gameplay parce qu'on. Je me répète un peu, mais ouais. Quand on a des pistolets ou des arquebusiers ou des fusils, c'est plus pareil. Hein,
ouais, non, ça change.
Mais on peut les mélanger. C'est ça qui est marrant, c'est qu'on peut avoir des Bushido qui fondent dessus. Il y a des stratégies différentes à mettre en place, notamment des stratégies de guérilla où on se cache dans la forêt, etc. Non, c'est vraiment. Bon, bref.
Shogun ninjas. Total War 2.
Il y a des ninjas. Il y a des ninjas.
Mais c'est hyper important.
Non, mais c'est vrai.
Avec des séquences, il y a Shinobi, non?
Il y a un Shinobi, voilà. Les Shinobi coûtent cher, notamment les actions pour éliminer les empereurs ennemis. Ça coûte plus cher qu'avant, donc tu peux un peu moins faire le mariole.
Non, mais s'il y a des ninjas, c'est cool.
Je suis d'accord.
Je le conseille vraiment. Et d'autant plus.
Ça va être marqué en gros sur la boîte.
Et d'autant plus, ce qui est super intéressant, c'est que c'est vraiment historique. C'est-à-dire que ça nous apprend en plus une période de l'histoire. Et ça fait bizarre de voir que moi, j'ai commencé à Fukushima. Et que mes ouailles étaient contre le développement technologique. Donc
étonnant. Shogun Total War Fall of Sanwai sur PC. Et on passe à toute autre chose. Eh oui, on passe à toute autre chose en ce moment dans Silence on Joue.
Hey, this is a quarantine zone. Identify yourself.
Don't take another step.
Resident Evil, Opération Raccoon City, on en a entendu parler, pas forcément en bien avant qu'il sorte, en tout cas, parce que c'est pas forcément un jeu d'ambiance. Hein. Resident Evil, la base du jeu, on est sur le jeu d'horreur normalement.
Ouais, ça fait longtemps qu'on sait que la licence Resident Evil est très protéiforme depuis des années, parce qu'effectivement on a des jeux, les jeux d'origine étaient des jeux d'aventure.
Patrick Vidéo, spécialiste de l'horreur,
qu'on a bien connu. Ça fait quand même quelques années qu'on a aussi des Survivor, des Dead Aim, des Outbreak, des Gaiden, des Umbrella Chronicles. Donc voilà, il y en a eu déjà plusieurs tentatives comme ça d'aller vers le jeu d'action. Ça se solde rarement par une réussite. Hein. C'est-à-dire qu'on a déjà eu des jeux plutôt pas terribles. Là, le parti pris était plutôt. Enfin, je trouve qu'il y avait une promesse plutôt intéressante parce que le parti pris de ce jeu, donc qui est jeu d'action à la troisième personne, plutôt action. Plutôt orienté multijoueur, c'était de dire voilà, on va incarner un groupe de squad, c'est le Wolfpack, je crois leur petit nom, qui va œuvrer pour le côté obscur de la force, puisqu'on va aller épauler les forces d'Umbrella en fait et faire le nettoyage de la ville de Raccoon City après les événements de Resident Evil, sachant qu'on retrouve pas mal d'événements, personnages de Resident Evil 2 et 3, qui sont plutôt les bonnes tendances de la série. Hein. Ce sont des époques de la série qu'on aime bien. N'est-ce pas?
Voilà.
Bien sûr.
Donc voilà. Donc le pitch était plutôt intéressant. Une fois la manette en main, bon, c'est là où ça se corse un peu parce qu'on est quand même sur un jeu qui a une réalisation plutôt moyenne. Je trouve que graphiquement c'est très sombre. Je trouve que c'est pas forcément, c'est pas flamboyant du tout.
C'est terne même.
C'est même plutôt terne, ça, qu'il y a une redondance. Je crois qu'il y a 7 ou 8, 7
couleurs.
7, non, 7 niveaux. Le principe, donc, c'est qu'on a 4 types de personnages différents avec des particularités et des pouvoirs spécifiques. Hein. Donc, on a des habilités qu'on va pouvoir développer au fil du jeu, de ce qu'on va débloquer. C'est-à-dire, on va pouvoir développer des cartes plus détaillées, avoir un contrôle des ennemis, etc.
Ouais, enfin, pour être invisible.
Voilà, exactement. On peut développer ces caractéristiques, donc on a vraiment différentes caractéristiques de personnages, différentes classes, et par contre on est toujours 4, c'est-à-dire que même si on joue en solo, on a 3 bots qui nous suivent. live. Voilà, là, un des soucis du jeu, je pense, parce que c'est au niveau de l'intelligence artificielle.
Ah oui, clairement.
Parce que moi, j'ai un peu eu l'impression que les développeurs avaient décidé de combler l'intelligence artificielle qui m'a l'air très très limite par une, par des ennemis super résistants. Ce qui donne des fois des scènes un peu bizarres. Je sais pas, Joël, on y a joué d'ailleurs en ligne.
Oui,
tous les deux, on s'est croisés.
Ça me fait un peu la peine quand tu parles d'intelligence artificielle.
Effectivement, parce qu'en fait, voilà, on sent qu'ils sont très bêtes, mais ils sont super costauds. C'est-à-dire qu'il y a des fois
Tu parles des ennemis ou
des ennemis? Non, non, pas de Joël. Non, je parle des ennemis où il faut des fois les bastonner sur plusieurs pendant un petit moment pour qu'ils tombent, et alors qu'ils sont super bêtes. Voilà. Donc ouais. Ça c'est, voilà, c'est une grande leçon de vie. Et alors, ils sont bizarrement résistants. Après, voilà. Donc on est vraiment sur du
Left 4 Dead.
Du Left 4 Dead like. En fait, vraiment, c'est un espèce de mélange très bizarre entre un Left 4 Dead 2 et un SOCOM. Pour la gestion un petit peu des personnages comme ça, et on a aussi ces éléments, moi, que je trouve plutôt sympathiques dans Left 4 Dead, effectivement, où des fois on va avoir une nuée de zombies qui nous tombe sur la gueule, et ça c'est plutôt bien foutu parce que petit coup de stress, faut vite les aligner, reculer, retirer dessus. Il y a des moments comme ça. J'ai bien aussi aimé parfois des moments de script qui s'enclenchent. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, Joël. Tu peux aussi,
Oui, non, mais je t'écoute.
J'ai trouvé qu'il y avait quelques moments où ça se passe bien, c'est-à-dire qu'on avance dans un niveau, et hop, on a un petit script qui se met en route, on a un boss qui vient nous friter, le docteur qu'on croisait dans Resident Evil 2 d'ailleurs, qui hop, il faut s'échapper, avancer, etc.
J'aime bien, il y a quelques moments où ça se passe bien. On sent quand même le moment gênant.
Non, après, c'est vrai qu'il y a des lacunes techniques, hein. Il y a pas mal de choses.
Mais carrément,
c'est un vrai jeu payé plein pot ou c'est
plein pot? Moi, j'étais très surpris de le voir se hisser la semaine dernière dans les meilleures ventes consoles PS3, Xbox en France.
C'est le nom, hein.
Parce que, ouais, c'est le nom, parce que je trouve le jeu est vraiment pas terrible, quoi. Effectivement, comme Patrick l'a dit, c'est moche. Non, mais il y a peut-être que 8 couleurs, hein. On les a pas comptées, mais c'est
très très sombre.
C'est possible. C'est pas agréable à jouer. Les personnages sont un peu tout raides. Le système de couverture, il y a un système de couverture qui est un peu mal pensé, c'est-à-dire que
on se bloque un peu.
C'est pas comme si le cover shooting était. Ils l'ont.
Non, mais il y a un art du cover shooting, quoi. C'est vrai que c'est.
Oui.
Et malheureusement.
Surtout là, le lock sur certains éléments, on se marche pas bien. Des fois, on n'arrive pas à sauter certains éléments. On peut bloquer contre un petit objet qu'on n'a pas vu. On va rester bloqué dessus et on va se faire friter par des ennemis.
Et je rejoins Patrick aussi sur la résistance des ennemis. Enfin, disons que c'est un peu bizarre, quoi. C'est juste pas.
Ils sont super.
C'est un peu agaçant.
En dehors des zombies qui sont plutôt réalistes, voilà, on les tire en 2 ou 3 balles, et encore, même des fois c'est plus rapide selon l'arme qu'on a et qu'on
va. Les zombies sont un peu réalistes. C'est juste. On va les garder.
Mais c'est là que même, parce qu'en fait, on se bat à la fois contre les zombies et aussi contre l'armée régulière qui vient un petit peu défendre les gens de Raccoon, parce que c'est un peu le bazar, hein, cette période-là dans Raccoon City. Et en fait, les soldats sont quand même super costauds. Et c'est un petit peu bizarre. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de fanservice, hein, c'est-à-dire qu'il y a pas mal de petits clins d'œil. Je parlais du docteur qu'on voit dans Resident Evil 2. Il y a pas mal de ralliements sur les scénarios de Resident Evil. Donc, on sent que c'est fait pour faire plaisir aux fans. Après, je pense que quelqu'un qui n'a pas joué à la série ne va rien comprendre.
C'est clairement
très cryptique pour quelqu'un qui connaîtrait pas du tout la série. Et bon, faut vraiment être fan pour rentrer dedans et passer outre. Et justement, je trouve qu'on se rapproche pas mal du côté filmique de la série, avec ce côté action complètement. On n'est plus du tout dans les codes du survival horror. Et c'est pour ça aussi que j'attends le 6. Moi, j'attends le. De ce que, vous avoir,
ça me dit quelque chose. Tu l'as pas déjà dit ici?
Si, c'est possible. Mais mais espérons qu'on va revenir sur les fondamentaux de la peur et du survival horror, parce qu'on est très très loin. Et
vous l'aurez compris, Resident Evil Opération Raccoon City, c'est pas forcément le jeu du moment, sauf si vraiment vous êtes très fan de ce jeu-là. Hein, en particulier. Bon, on accueille maintenant, comme chaque semaine, et toujours avec un plaisir renouvelé, Monsieur Fall de TrickTrack.net et sa chronique Jeux de Société. Bonjour, Monsieur Fall.
Bonjour, mon cher Erwan. Le jeu de société a cette petite particularité de vous permettre de combler quelques manquements dans votre vie quotidienne de tous les jours, comme par exemple d'avoir du pouvoir et de manipuler tout ce qui passe à votre portée. C'est ce que vous propose Trajan, un jeu de Stephen Feld, pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans par des parties de 60 minutes, un jeu édité par Gigamic en français. Dans Trajan, vous voilà à la Rome antique. Oui, vous allez manipuler, vous allez essayer d'avoir la plus grosse influence possible durant la Rome antique. C'est beaucoup moins sale et beaucoup plus propre que de le faire à notre période contemporaine. En tout cas, c'est plus accepté par la société qui nous entoure. Donc, dans Trajan, vous avez un jeu purement à l'allemande, avec des cubes en bois et des ressources. Vous allez faire une action qui va déclencher une action, qui va vous permettre d'avoir des bonus pour arriver à vos fins à la fin de la partie. Mais toute la subtilité et l'astuce va être dans comment vont se déclencher ces actions. Et là, on retrouve une mécanique de la volée. Stefan Feld a repris cette petite mécanique qui consiste à égrener des jetons dans des petites coupelles. Et là, il a virtualisé. Vous avez une espèce de genre de coupelle, de petits trous dessinés sur le plateau. Vous allez égrener vos pions. Et quand vous allez vous arrêter sur une des coupelles, vous allez déclencher des actions qui vont déclencher des actions. Enfin bref, vous allez pouvoir évaluer à quelques tours à l'avance ce qui va vous intéresser. Pareil pour votre adversaire. Enfin bref, ce système d'avouer reporté dans un jeu moderne est une petite merveille. C'est du Stefan Feld, c'est du grand Stefan Feld. C'est un jeu pour semi-joueur velu. Je dirais qu'une simple petite moustache et du poil sur les avant-bras vous permettent de l'appréhender, d'y jouer. C'est limpide, c'est simple, c'est facile. C'est trageant. C'est un jeu proposé en français par Gigamic, qui est habitué d'habitude à faire des petits jeux un petit peu grand public. Là, il passe un petit peu le capot dessus pour, comme on a remarqué que les joueurs étaient de plus en plus accros et avaient envie des jeux un peu plus intelligents que simplement faire pouet pouet truc truc, il se lance dans des jeux comme Trajan et pour mon plus grand bonheur, car c'est un jeu d'opportunisme pur, c'est un jeu très plaisant, c'est très très fin. Stefan Feld est un grand auteur, donc je vous rappelle le nom, Trajan, Stefan Feld chez Gigamic, un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 12 ans pour des parties de 60 minutes environ. C'est fluide, c'est limpide, j'ai beaucoup aimé ce mécanisme de la voie et je me fais fort, mon cher Erwan, de prévoir que vous allez vous aussi adorer cette petite chose. Et je vous dis à la semaine prochaine.
À la semaine prochaine, Monsieur Fall. Monsieur Fall de TrickTrack.net. La minute culturelle de Marvel 19.
Non.
Pourquoi?
Prise d'otage, Erwan. On va te poser des questions.
Ça, ils ont préparé.
Grâce.
Ok.
Non, on n'a pas préparé. C'est comme nous, c'est VNZ. C'est
nous
envoyer des petites questions. Alors, on va...
c'est ça qu'on préparait, je dis. Alors. Okay.
Alors, il faut que tu trouves en fait le doubleur dans la VO.
Voilà, en VO,
en anglais, d'accord. Alors, on en a 35 et on s'est dit qu'on arrêterait quand tu commenceras à pleurer.
Voilà. D'accord.
Voilà. Je commence.
C'est bien.
J'ai commencé. Quel est le doubleur de Nathan Drake dans Uncharted?
Je sais pas.
C'est Nolan North.
Ah oui, mais là je m'en souviendrai pas dans deux minutes non plus. Hein. C'est...
Bon, alors le Joker dans Batman, dans les Batman Arkham.
Mark Hamill.
Bravo, un
bien,
point.
Un point. Je note. Un point.
Je pense que j'avais.
Sergent Buck de Halo ODST et Halo Reach.
Ah, je sais pas. En VO, mais je pense que j'ai... Mark Hamill, c'est peut-être ma seule.
Nathan Fillion.
Fillion.
Il m'a dit Fillion.
Et quel est l'acteur qui double Desmond Miles dans Assassin's Creed?
Non. Je sais.
Nolan North.
Ok, je note. Je vais ressentir.
L'acteur qui double Cave Johnson dans Portal 2.
Cave Johnson dans Portal 2. Ah oui, attends, ça me disait quelque chose. Je l'ai vu, je m'en souviens, je ne sais pas.
J.K. Simmons.
Ah ben non, alors, je ne sais pas. Il n'y avait aucune raison.
Un acteur qu'on connaît très bien depuis 30 ans, qui a fait pas mal de films cultes d'horreur.
T'as vu, il est gentil.
Il double l'amiral Steven Hackett de la série Mass Effect. Et c'est un acteur qu'on connaît, il fait partie de la famille quasiment.
Alors je vois la tête de l'amiral Hackett, je vois, je l'ai croisé il y a pas longtemps.
Qui parle à sa place en VO.
Non, pas du tout.
Lance Henriksen.
Alors celui-là tu le connais, je pense tu le connais, donc tu vas être, si tu l'as pas vraiment. Il double Truck de Call of Duty Modern Warfare 3. Ok, tu n'as pas joué pour le moment.
Si, je crois que j'ai essayé. Alors, mais non, je ne...
C'est Idris Elba.
Ah, très bien. Oh là là, Luther, il faut absolument voir ça.
Bon, il commence un petit peu à avoir les yeux un peu humides. Bon, on va continuer. Je l'achève.
Alors qui
Nolan North.
Qui interprète la voix, enfin qui est la voix de Kenny Falmouth dans The Curse of Monkey Island?
Nolan North. Non,
c'est Gary Coleman.
Ah oui. Oui,
une petite dernière que tu es obligé de trouver parce que tu es un fan de l'acteur. Non, tu es un fan de l'acteur.
Jason Statham.
Tu dois le trouver. C'est
Vin
pas lui.
Diesel.
Rogue de Need for Speed Most Wanted.
Vin Diesel. Voilà.
Bravo. Un point, Erwan. Bravo.
Non, on sait que je suis fan d'acteur absolument.
Mais il faut assumer, Erwan.
C'est pas grave. Non, mais j'assume.
On est en famille, on est entre nous.
Bon, merci, merci. Merci.
C'est plus ta plaisir.
C'est bien joué, bien joué. Je ne m'y attendais pas. On en est où? Ben voilà, maintenant j'ai perdu mon programme.
Il est tout déstabilisé.
Ah mais oui, on est là. Attention, ça va être bien ça. On écoute d'abord.
ce n'est pas un porno fermier. Je sais, vous y avez tous pensé. Vous y avez tous pensé avec cette formidable musique. Mais il s'agit bien de Farming Simulator 2012 3D. Oui, un peu le blockbuster du moment. Farming Simulator, hein, on connaît on, ou pas, mais
c'est sur PC.
C'est sur PC.
Et ça marche super bien.
Oui, ça, et ça marche
ça
super
fait...
bien.
Non,
ah, oui. Ah oui, ça se vend, hein, ça se vend. Hein,
ça se vend. Je crois qu'il y a
carton monumental en Allemagne et ça a très bien marché en France. Ouais.
150 000 exemplaires de l'exemplaire 2000
PC.
11, ouais. Ouais, ouais, 2011 vendu. Ouais, gros carton. Ouais.
Donc voilà, et il arrive sur 3DS et donc moi j'ai pris mon courage à deux mains et ma passion pour les tracteurs m'a aidé.
Ah ça y est, tu oses en parler.
Ça y est. Il y a un côté Léa passion tracteur quand même, hein. C'est un peu ça, Farming Simulator 2012 de 3D. Alors
est-ce que le bonheur est dans le pré?
Est-ce que le bonheur est dans le pré? Alors, on commence. Alors, il faut bien savoir qu'on revient sur les bases du jeu vidéo avec Farming Simulator 2012, parce que il faut lire le livret qui est avec. Parce
Clément,
que
autrement,
en train de faire.
Autrement, on ne comprend rien. C'est-à-dire qu'on commence avec, on est en contrôle d'une moissonneuse batteuse. Ou juste moissonneuse, je sais pas. Enfin, je sais pas. Vous savez la différence entre moi non. Bref, et on doit moissonner un champ. De blé.
Je vois qu'il y a des moissonneuses à fourrage aussi.
Ouais, voilà. Ça va être un petit peu différent, mais bon, ma passion pour les tracteurs n'est pas encore assez développée pour arriver à ce point-là.
Ça va venir.
Donc, on commence à moissonner un champ de blé. Ensuite, on va mettre les grains dans une.
Mettre le grain
dans une charrette, dans un réceptacle qu'on accroche au tracteur. J'ai y arrivé.
Donc là, c'est plutôt l'action. Là, il n'y a pas de gestion au début.
Et donc après on apprend les bases, c'est-à-dire qu'on commence par moissonner, après il faut labourer ce même champ
parce que c'est l'agriculture moderne. Ouais. Parce qu'il y a aussi maintenant, je précise parce que j'ai vu que
il y a Farmville.
Maintenant il y a aussi des agricultures
un peu rétro
de l'époque. Ouais,
c'est bon.
Dans les années 1900, etc.
Ouais, non, là, c'est moderne, mais j'en parlerai après sur le contexte un peu géopolitique de la chose. Donc on apprend. Alors parce que une fois qu'on a fini avec la maçonneuse, on prend le contrôle du tracteur avec une petite pression sur la croix directionnelle.
En,
on change
en 3D.
En 3D. Et donc au début on a deux véhicules et donc après, on clique un peu sur les menus, ça va, il n'y a pas grand chose. C'est-à-dire que nous avons un plan. Nous avons les cours des matières premières que nous allons vendre. Et un peu les opérations intéressantes. C'est-à-dire, nous avons l'auberge qui veut du blé et qui va acheter 1,7 fois son prix. Et donc, mais ça, c'est pendant 10 minutes. Donc, si t'as pas de blé, et ben, tu te grouilles d'enfer. Enfin bon, après.
On va avoir de
l'argent. Voilà. Et sachant que, on est un peu dans le GTA de l'agriculture. Ah, c'est-à-dire que nous sommes dans un monde ouvert. On peut sortir de sa ferme et aller livrer son grain à 4 points de vente voire 5. Nous avons la station de train, nous avons l'auberge, nous avons l'usine, nous avons et un cinquième, je sais, ou un quatrième, je ne sais plus. Enfin, il y a différents vendeurs. Et puis, on a des endroits où acheter de l'essence et un endroit où récupérer les belles machines agricoles que nous avons achetées. Parce que après, ce qui se passe, c'est qu'on gagne de l'argent, hein. Alors voilà, moi je me suis dit, on est quand même sur un jeu réaliste. On est sur un jeu Farming Simulator. Donc, par exemple, vu que je connais un peu le monde de l'agriculture pour avoir vu quelques reportages, je me suis dit,
de loin, quoi.
Je suis quand même petit-fils de paysan aussi par ailleurs, hein,
on y vient.
On y vient. Et donc j'ai cherché à m'endetter tout de suite parce que pour être réaliste aujourd'hui, si t'es un agriculteur sans dette, c'est un peu. Et ensuite j'ai cherché la case aide agricole de la PAC.
Ah oui. Et alors?
Bah elle est pas.
Elle est pas.
Ah oui, elle est pas. Alors j'ai cherché et à m'endetter et à choper des aides européennes et j'en ai pas pu.
Est-ce que c'est de l'agriculture bio? Je me pose la question.
Alors non. Alors il faut bien savoir.
Ou est-ce qu'il y a des OGM? Enfin, alors, est-ce qu'il y a question?
C'est un peu FNSEA Simulator 3D, hein. On n'est pas chez José Bové, on n'est pas la Confédération Paysanne, on est chez les céréaliers, messieurs, dames. On est vraiment chez les céréaliers, chez la grosse agriculture. La loi de l'offre et de la demande.
Le gameplay, concrètement.
Mais il en a parlé, je crois.
Alors, non. Il faut aller plus loin.
C'est la simpliste, quand même.
Oui, alors, mais il y a un moment où tu commences à être un peu pris au au jeu, c'est quand tu te rends compte que tu peux embaucher. Parce que oui, il faut embaucher, il faut pas, t'es pas tout seul dans ton exploitation, t'as quand même 3 champs à gérer et tu peux acheter des champs. Et tu vois tous ces champs à acheter pour des sommes folles, parce que il y a des champs, ils coûtent 400 000 euros, quoi, t'imagines. C'est 400 000 euros. Moi, c'est généralement le montant des dettes des agriculteurs. C'est pas le montant et donc on gagne de l'argent, on gagne beaucoup d'argent et on achète de nouveaux champs. Et puis ensuite, on se dit putain, si je dois les moissonner, les retourner les champs, plus les ensemencer, plus les arroser. Après, à partir de 3 champs déjà, je suis dépassé et au 4e. Et en fait, c'est là où on se rend compte qu'il faut acheter. C'est là où ça devient rigolo. C'est quand on achète des tracteurs et des moissonneuses.
En puissance, on met
son tracteur avec par exemple l'arrosoir derrière. C'est pas un arrosoir, mais bon, bref.
Et
on le met dans un coin du champ. Et puis là, on dit je veux embaucher un assistant. Et puis là ça coûte des sous, mais le tracteur il se met à arroser.
Pulvérisateur.
Voilà, un pulvérisateur. Merci.
C'est bien ça.
En fait, on se met à gérer différents trucs. Mais bon.
Et, voilà. Et la conduite des tracteurs, tu peux drifter un petit peu, tu peux.
Pas tant, mais par contre, t'as un gyrophare.
Ah, le gyrophare.
Mais ça a l'air super simpliste quand même quand on regarde.
En fait, grosso modo, c'est un très bon jeu Flash.
D'accord.
En 3D. Il y a un côté un peu grisant à répéter les choses et à gérer plein de choses en parallèle. Parce que quand on commence à avoir 4-5 champs avec 3 moissonneuses plus 5 tracteurs, on les met, on regarde, on passe d'un véhicule à l'autre pour voir ce qu'ils font et tout ça. Et donc on se met à gérer ça en parallèle. Mais finalement, c'est un côté.
Moi, en tout cas, qui adore les tycoons, si ça peut permettre à des gens de relancer les tycoons, des transports.
On est tellement loin de ça, et c'est ça qui est un peu décevant. C'est d'une part déjà qu'on est quand même, enfin Farming Simulator, on est quand même sur FNSEA Simulator, c'est l'agriculture productiviste de céréales. Moi ça m'aurait fait marrer d'avoir un espèce de jeu ouvert où tu peux jouer un maraîcher, où tu peux décider de faire
rester à l'échelle que tu choisis.
Ça aurait pu être rigolo. Là on est quelque part sur un modèle politique de l'agriculture.
Il n'y a pas d'AMAP.
On en est bien loin. Et c'est ce côté-là un petit peu gênant. Et le côté village ouvert, qui est absolument ridicule. Il y a une seule map. Et en plus, c'est ça. En fait, on est obligé d'avoir le livret à côté parce que c'est là où on a la carte. Autrement, on est perdu. Il est minuscule, mais on se perd très vite.
C'est dommage pour un jeu DS que tu dois emporter un peu partout de devoir avoir le manuel avec.
Voilà, c'est un petit peu dommage. Et il faut vraiment le lire parce que autrement, on comprend rien à ce qu'on doit faire et ce qu'on peut faire. Enfin bon, bref.
En même temps, pour les gens qui ont fini Mass Effect 3, c'est bien.
Oui, c'est bien.
Voilà, jouer à moissonneur.
C'était facile. Ouais, mais j'y avais pas pensé. Non, ça me fait plaisir, Patrick. Je suis heureux. Et voilà. Donc ça, c'est Farming Simulator, c'est 35 euros, je crois, ce qui est peut-être un petit peu cher.
Je dis ça comme ça.
Mais bon, quelque part, s'il y avait quelque, moi, je me suis dit.
J'ai l'impression que la version PC est vachement plus complète.
D'une part, il y a plusieurs maps, c'est beaucoup plus libre la version PC. Enfin, j'y ai pas joué, mais j'ai regardé des choses à droite à gauche. Mais en même temps, voilà, j'aurais envie d'un vrai truc ambitieux, énorme sur ce sujet-là. Ça pourrait être marrant, ce serait vraiment rigolo.
Kickstarter.
Et je vais finir quand même sur, parce que vous le savez peut-être déjà, je suis assez fan absolu des jeux de golf.
Beaucoup dans l'herbe en ce moment.
Oui, c'est vrai.
Et donc il y a Tiger Woods 13, qui vient de sortir, Tiger Woods Championship ou je ne sais quel, chez Electronic Arts.
Donc c'est revenu donc, Tiger Woods parce que je crois qu'il y avait même.
Ça a toujours été.
Il était plus en avant, je crois, c'est ça le sportif.
Electronic Arts a été un des rares sponsors à le garder.
Il semblait qu'il était moins en avant sur certaines versions.
Oui, parce qu'il avait couché avec.
Ah oui, c'est un grand jeu.
Mais c'est pas le sujet. Non, je sais pas. On peut en parler aussi. Je suis pas contre, tu veux faire du gossip sur Tiger Woods?
Non, c'est bon.
Alors Tiger Woods 2013, moi j'ai un très bon souvenir de Tiger Woods, je crois que c'est 2008, qui était absolument phénoménal sur la 360. Enfin, j'ai fait en long, en large et en travers, c'était un vrai plaisir. Et là depuis, c'est un peu la déshérence absolue, les Tiger Woods. Alors, sur ce numéro 13, il y a une particularité, c'est qu'on peut jouer Tiger Woods toute sa carrière depuis l'âge de 2 ans. Alors, c'est le petit côté marrant, c'est-à-dire que tu le joues à l'âge de 3 ans, puis tu le joues à l'âge de 8 ans, à l'âge de 13 ans, à l'âge de 18 ans, etc. Et, mais alors, le problème, c'est que en mise en scène, il n'y a rien. C'est-à-dire c'est d'une austérité.
On le voit pas genre encouragé par je sais pas par ses parents.
Ouais,
ou
non, on voit juste le petit gamin.
D'habitude justement c'est leur force, c'est qu'ils mettent en scène.
Voilà, normalement ils savent mettre en scène, il y a un vrai plaisir à être dedans, on se sent un peu porté par le jeu. Là mais alors je parle pas juste des passages Tiger Woods gamin, mais c'est tout le jeu. Et d'une austérité absolument déprimante. Moi, je me rappelle, je crois que c'est Tiger Woods 08 ou 09, où quand tu réussissais un drive, t'avais un ralenti, tu revoyais la scène. Enfin, t'avais vraiment des effets qui étaient marrants, quoi, qui te donnaient envie. Là, rien. C'est-à-dire tu tires ton coup, oui moi ouais
c'est une vraie simulation, du coup c'est aussi austère que le jeu quoi.
Ouais,
c'est,
alors sauf que en fait ce qui est un vrai plaisir dans les jeux de golf et depuis longtemps, c'est que le golf a un modèle physique relativement simple, hein. T'as le vent, t'as un effet sur la balle, tu tires à tel endroit, t'as tel club, tu tires à telle hauteur, à tel angle, voilà, et finalement après le calcul de la parabole de la trajectoire de la balle est assez simple. C'est pour ça que dès qu'on a eu des jeux, même qui jouaient des jeux de golf en vue par au-dessus, était assez réaliste en fait, et il n'y avait pas besoin d'attendre la 3D pour avoir du réalisme dans le golf. Et en fait ce qui plaît dans le golf, c'est que si tu vois ton coup que tu veux faire, tu sais que tu veux prendre un fer 8 et que il faut que tu tapes à 85% et que tu fasses un petit effet pour arriver à tel endroit sur le green, et ben en fait après tu as besoin de skill un petit peu pour réussir ton coup dans un jeu, mais tu y arrives. Et là en fait ils ont tellement complexifié ou bordélisé le gameplay que même si tu sais quel coup tu dois faire,
t'arrives pas à le faire
et tu ne sais pas vraiment pourquoi t'es pas réussi à le faire. Le pire le pire du pire étant le putt. Une fois que t'es sur le green, c'est une catastrophe pour doser.
Le putt, c'est le dernier coup, c'est les derniers
coups.
Voilà,
c'est une fois que t'es sur le green, c'est pour mettre le trou dans
la balle dans le trou.
Ouais, la balle dans le trou.
Et pas le trou dans la balle.
Voilà. Non, c'est pas ça. Et donc là t'y arrives, tu sais pas pourquoi t'y arrives. Enfin, c'est une horreur. Voilà, moi j'ai été
donc,
ma grande.
Donc grosse déception.
En fait, on sent que Electronic Arts a quelque part abandonné, enfin laissé cette licence en jachère.
Mais c'est dommage. C'était quand même. Ça paraissait une super bonne idée, quoi, l'idée de revoir sa carrière de sportif, quoi. En soi, c'était.
Ouais, c'est rigolo. Ouais.
Le Tiger Woods, c'était sympa, mais en fait, avec cette austérité, ce côté pas fun du tout. Et après, je vous cache, je vous passe même pas des aberrations. Genre, on ne peut pas, sauf dans le mode carrière, on ne peut pas faire un tournoi digne de ce nom. C'est-à-dire que soit on fait un parcours tout seul. C'est un peu déprimant. Soit on fait contre 4 joueurs, mais en ligne et tout ça, ou contre 2 joueurs, mais on peut pas faire un vrai tournoi, genre avec où on veut jouer un joueur pro, genre Tiger Woods ou un autre grand joueur, sans avoir à se taper le mode carrière en passant par le mode amateur, etc. On peut pas faire un vrai tournoi directement en jeu rapide, quoi. Enfin, il y a plein de choses qui.
Et puis il coûte deux fois plus cher que Total War Shogun 2. Voilà. Je dis rien.
Donc voilà, grosse déception. Moi, j'espère qu'ils vont reprendre. Ou alors, pourquoi pas, c'est peut-être un boulevard pour Touquet.
Peut-être.
Hein, comme à chaque fois, je ne sais pas le dire. Hein, ils ont. Enfin, il y a un truc à faire avec le jeu de golf. En tout cas, Electronic Arts semble s'en désintéresser au dernier point.
Sinon, sur la Wii, il y a une petite simulation de golf, quoi, qui. Qu'est-ce que c'est sympa!
Regarde déjà sur le Wii Sport Resort.
Voilà, sur le Wii Sport Resort.
D'accord.
Tout à fait.
Tout à fait. C'est pas grave, Joël. Bon, c'est fini cette semaine avec le jeu vidéo. Et la question rituelle à laquelle vous n'allez pas échapper. Quand vous ne jouez pas, vous faites quoi, Joël? D'ailleurs, allez hop.
Moi, je suis en train de. J'ai terminé de regarder les saisons 5 et 6. Alors, la semaine dernière, tu parlais des séries anglaises, des séries britanniques. Et alors moi je suis très j'ai redécouvert Doctor Who. Doctor Who. Je vais pas vous fredonner le générique, mais j'aurais super envie. Mais Doctor Who,
faut être anglais pour aimer Doctor Who.
Ah, c'est quand même si.
Semblerait moi je sais pas.
C'est quand même c'est un univers spécial, un petit peu spécial. Ça mélange de
c'est culturel. Enfin c'est un.
Oui mais bon. Alors attends, c'est quand même c'est un univers un peu spécial, un mélange de SF, de fantastique, avec cet humour britannique un peu absurde, kitsch, et là qui dans les saisons 5 et 6 qui voit l'apparition du 11e docteur, parce que la particularité de ce docteur, c'est à chaque fois de changer régulièrement de personnage, d'acteur et donc un peu de personnage.
On a eu Peter Cushing il y a très longtemps.
Peter Cushing est aujourd'hui interprété par le génialissime Matt Smith qui incarne un docteur Who complètement fantasque. Et donc là les saisons 5 et 6 qui sont emmenés par Stephen Moffat, le créateur de la série Sherlock, sont absolument brillantissimes au niveau de l'écriture. Quoi. Ouais. C'est vraiment un truc assez délirant. C'est très kitsch, c'est assez kitsch, mais c'est assumé et c'est très bien écrit. Alors moi, je me prends mon pied. La saison 6, elle va être diffusée sur France 4 là, bientôt. Moi, je trouve qu'il faut vraiment la voir. Quoi, voilà.
Clément.
Moi, j'ai lu toute la BD Global Frequency. Voilà.
Warren Ellis.
Ah, la particularité de cette BD, c'est Warren Ellis qui l'a écrite. Mais chaque tome, il y en a 12. Chaque tome, en fait, c'est une histoire à part entière qui peut se lire indépendamment les unes des autres. Chaque tome est dessiné et colorié par des auteurs différents. Donc, on retrouve les personnages. C'est assez intéressant. Et qu'est-ce que la Global Frequency? On peut dire que c'est une agence non gouvernementale qui regroupe 1001 spécialistes dans différents domaines variés.
Technologiques
la plupart quand même, ou militaires aussi, et qui sont appelés en cas de, enfin pour sauver des gens, pour sauver l'humanité ou pour sauver dans des situations de crise, on va dire. Et c'est assez violent, c'est souvent bien écrit, souvent bien imaginé, et ça se lit vite et bien. Moi j'ai vachement apprécié.
Il y a
12 histoires qui en France sont regroupées en 2 tomes.
Deux tomes. Qui coûte combien après?
Je sais pas.
Non, mais c'est des TPB, c'est format TPB, c'est à 15€.
15€ les deux, ouais, 15€ chaque, il y en a deux, ouais.
Mais pour ce même prix-là, on peut acheter Total War.
Exactement. Non, mais c'est vraiment une bonne série, c'est bien écrit.
C'est Warren Ellis.
C'est bien scénarisé, donc je pense.
Patrick.
Alors moi, je vous avais déjà dit que je prenais régulièrement des doses de Twilight Zone, la quatrième dimension, c'est un peu ma cam, j'en prends régulièrement, je me fais un épisode vraiment très régulièrement.
Entre Silent Hill et notre Resident Evil.
Voilà, on se fait plaisir. Et puis là, je suis tombé dernièrement au détour d'un magasin sur les deux épisodes d'Au-delà du réel. Alors c'est vrai que c'est intéressant aujourd'hui, le DVD ne vaut plus très cher, on sent que c'est bradé, donc on se fait plaisir. Donc j'ai pris les deux coffrets, donc deux saisons, il y a deux saisons des années 60 d'Au-delà du réel. Alors c'est plutôt intéressant, je connaissais pas très bien cette série, elle est sortie en même temps que la fin de Twilight Zone, donc c'est vraiment les années 63-64 je crois. C'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que c'est moins bon que Twilight Zone. C'est-à-dire qu'on n'a pas Rod Serling en début d'épisode. On n'a pas, aussi à la fin de l'épisode. On n'a pas des Richard Matheson. Enfin, pas ma connaissance pour l'instant. Il n'y a pas Richard Matheson dans les auteurs des scripts, etc. Mais il y a des délires assez intéressants. Je trouve que il y a pas la même finition. Mais il y a des supers idées. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est que c'est un peu moins, il y a moins ce côté un peu fable qu'on a souvent dans les Twilight Zone, qui est pour moi cultissime et intouchable et qui est vraiment la référence. Et là, on a un petit côté un peu plus bis, avec souvent des budgets encore plus serrés, où on sent vraiment que c'est limite, mais c'est un vrai charme vraiment attachant. Et puis des histoires qui vont un peu plus des fois dans l'espionnage ou dans la vraie SF complètement barrée avec des aliens, etc. J'ai en mémoire un des premiers épisodes de la première saison, du premier coffret, genre une cinquantaine d'épisodes, avec le président des États-Unis qui est remplacé par un clone par les Japonais, on devine, qu'il le remplace par un type qui a un masque, qui le remplace. Ah. Et alors je vous laisse deviner, c'est assez extraordinaire.
On devine, une ambiance à voir.
Ça vaut le coup. Au-delà du réel, deux saisons. Puis après, il y en a eu d'autres dans les années 90, mais c'est moins bien, sans couleur, ça vaut pas le coup. 64-65. Voilà.
Moi, j'ai revu donc La Classe de Neige, vieux film, film de Claude Miller qui est décédé récemment, la semaine dernière. Et en fait, ça m'a surpris, je ne connaissais pas, j'avais jamais vu cette histoire d'un
gamin.
C'est
dur, non ?
C'est angoissant et c'est très dérangeant. Enfin voilà, je vous le conseille si vous avez l'occasion. C'est j'ai pas besoin. C'est un enfant avec ses angoisses qui sont assez faramineuses et qui part en classe de neige. Enfin voilà, c'est vraiment un très très beau film. Voilà, c'est tout. On se retrouve très bientôt. On a fait long, mais on se retrouve très bientôt pour parler jeux vidéo sur Libé Labo.
Ever Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.